Late great Dr. Miles Monroe, he once said that if you don't write your story, somebody else will write it for you. And 9 times out of 10, it's not accurate. So to set the record straight, this is me. This is me, you can take it or leave it. Bonjour, je m'appelle Gédéon Mietté et je suis convaincu que si nous ne racontons pas notre histoire, d'autres le feront à notre place. Et 9 fois sur 10, elle sera fausse. Nous devenons ce que nous sommes par les histoires vécues, nos expériences. Nous choisissons qui nous voulons devenir, ce que nous voulons faire de notre vie grâce aux histoires, aux expériences qui nous ont marquées. Take it, tu veux dire en anglais prends-le, prenez-le. C'est quoi? C'est un podcast où je vous partage mon histoire par une série d'épisodes depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Dans chaque épisode, je vous partage mon parcours, combat, mon vécu. Je partagerai des astuces, il serait peut-être des petits conseils de comment j'ai surmonté certains événements de ma vie qui ont été très marquants. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans mon histoire et pourrez raconter la vôtre un jour afin d'inspirer les autres. Par votre vécu, vos combats et vos victoires au fil des épisodes, je vous proposerai des séries d'épisodes racontés par mes proches de leur histoire avec moi.
So when you write, you are doing something very dangerous. You are leaving ideas that will outlive you in the cemetery. This is me. And they will affect generations after you. You can take it or leave it. In essence, writing makes you live forever. You can take it or leave it.
Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 6. Je vous parle de mon séjour à Kinshasa en l'an 2000. Dans cet épisode, je vous parlais particulièrement des péripéties, des choses que j'ai vécues lors de mon premier séjour à Kinshasa en l'an 2000. La désillusion, les conséquences de la religiosité dans les familles, ce que j'ai vécu avec ma mère qui était victime de la religion, les choses que cela a provoquées dans ma famille, dans ma propre vie, les choses que par le nom de la religion, par le nom des fausses croyances, j'ai pu subir dans mon enfance parce que ma mère était victime, on va dire, de la religion. Et je tiens à souligner que je suis quelqu'un de très croyant. Je suis un chrétien, je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous vivons une époque où les églises, les obédiences religieuses et autres et tout sont devenues des marchands de sommeil, des marchands de rêves qui ont détruit des vies, qui ont détruit des familles, qui ont... Donc moi, j'ai été victime avec ma famille. Il y a eu beaucoup de divisions, beaucoup de séparations dans ma famille liées à la religion, liées aux croyances, aux fausses croyances. Et ça a eu de l'impact sur ma santé, sur certains actions que j'ai eu à, sur certains actes pardon, que j'ai eu à poser dans ma jeunesse, qui en découlaient en fait des choses que j'ai pu subir quand j'étais enfant à cause de la religion. Donc voilà, je vous raconte. C'est parti. Ceux qui ont écouté mon dernier épisode, Poudre réfugié en anglais, pour dire fier réfugié. Bon, je vous disais, quand on est arrivé à Pointe-Noire en l'an 2000, après avoir fui en 99, après avoir fui la guerre et tout, en l'an 2000, il y avait ma mère a décidé que moi, ma sœur, ma défunte sœur Grace et mon frère aîné, nous devions partir pour Kinshasa. L'église dans laquelle nous prions à l'époque, je ne vais pas citer le nom pour éviter de créer de polémique, avait organisé une très grande convention en RDC, puisque c'était là-bas le siège international de l'église à Kinshasa. Donc pour moi, j'étais super excité, j'allais prendre l'avion, j'allais voyager, j'allais voir du pays et tout, c'était très beau quoi, j'étais excité mais sans savoir réellement ce qui m'attendait en fait, le piège qui était derrière. Ma sœur Grace, depuis ma naissance jusqu'à ce qu'elle est morte, elle souffrait d'épilepsie. Et ça a été le combat de toute une vie. Ma mère a passé sa vie à essayer de trouver des solutions pour pouvoir guérir ma sœur. Vous savez, la maladie comme épilepsie, pour ceux qui sont d'Afrique, qui sont du Congo, c'est une maladie mystique. C'est une maladie d'envoûtement, c'est une maladie de sorcier et autres et tout. Étant africain, je ne vais pas dire le contraire, je ne vais pas dire que forcément, c'est vrai que l'épilepsie est une maladie psychologique qui atteint le système cérébral et tout, système nerveux. Mais je sais qu'il y a une part d'ombre dans ce genre de maladie, dans la façon dont cela est arrivé pour ma sœur, bien que cela arrive aussi pour bien d'autres personnes. Par rapport à l'histoire de ma famille, à nos réalités culturelles, à nos réalités, à nos coutumes. Il y avait certes sûrement une part d'ombre derrière, mais la façon dont ma sœur l'a vécu, la façon dont ma famille a vécu, la souffrance, cette maladie de ma sœur avait totalement transformé les rapports de ma famille, de ma mère particulièrement, avec Dieu, avec la religion. La maladie de ma sœur faisait de ma mère une victime, une proie facile pour tous les charlatans, pour tous les diseurs de bonne aventure et tout qui venaient avec une solution miracle spirituelle pour pouvoir délivrer l'esprit de ma sœur de là où elle a été enfermée et tout. Et dans cette église, on disait que l'épilepsie, c'était une maladie spirituelle où quand ma sœur, elle faisait des crises d'épilepsie, son esprit quittait son corps pour aller travailler dans le monde spirituel. Donc le temps où elle faisait des crises, elle partait dans le monde spirituel. Et là-bas, elle était, abusée. Elle était la femme de quelqu'un, elle avait des hommes là-bas et tout. Voilà pourquoi dans la vraie vie, elle ne pouvait pas se marier, elle ne pouvait pas être normale et toutes sortes de choses et tout. Et dans cette quête de guérison perpétuelle que ma mère a recherchée, elle m'emmenait partout. Elle est allée partout. Et moi, j'étais un peu, on va dire, la victime. Puisque quand ma soeur a commencé à souffrir, moi, j'étais... c'était bien avant ma naissance. J'étais, je crois, pendant que ma mère il devait être enceinte ou avant ma naissance, je ne sais plus trop. Mais quoi qu'il en soit, la période où ma soeur souffrait énormément de cette maladie, moi, j'étais petit. Et quand ma mère, elle est rentrée du RSS, à l'époque, après ses études, elle voulait à tout prix trouver une solution pour la guérison, pour la santé de sa fille. Donc, elle est partie d'église en église, de religion en religion, chez des guérisseurs, chez des tradipraticiens, dans des camps d'internement où on traitait des gens qui souffraient de folie. Et moi, on m'entraînait partout dans ces lieux. J'étais souvent avec ma sœur, Karen, et on va dire que j'ai même marché dans un camp d'internement de malades mentaux, en fait, dans un hôpital psychiatrique où était traitée ma sœur, dans un village à l'Essara. C'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas, tout ça dans la quête de la santé de ma sœur. En grandissant, ma mère a découvert d'autres religions. Quand c'était l'époque dans les années 95, l'avènement 90-95, l'avènement des églises de réveil, ça a commencé par Nzambe Malamu, pour ceux qui sont originaires du Congo Kinshasa comme du Congo Brazzaville. Comme pour la plupart des grandes églises qui sont arrivées au Congo Brazzaville, elles étaient en provenance de Kinshasa. Donc il y a eu la vague des réveils évangéliques et tout ça là. Il y avait Nzambe Malamu qui débarquait et tout. Donc on était dans ce mood là et tout, dans les années 90. Parce que la première fois que ma mère était allée à Kinshasa avec ma soeur, c'était je crois en 94. Ils ont passé quelques mois après. Et la deuxième fois, c'est toujours dans les cadres derrière, c'était toujours lié à la religion. La deuxième fois qu'on y est allé, et là cette fois-ci avec moi, c'était en l'an 2000. Donc comme je disais, moi je me disais que c'était un voyage, c'était les vacances en plus, hein, donc de ce qu'on m'avait dit, donc c'était juste le temps de 3 semaines, de la durée de la convention, et puis on revenait quoi, au pays. Donc nous voilà, partis de Pointe-Noire pour Kinshasa, en passant par Brazzaville. Déjà le début du voyage, il était catastrophique. Tellement qu'en voyant en délégation, il fallait louer des avions et tout ça, on était tellement nombreux, c'était vraiment des milliers de personnes qui y allaient. On a, je crois, dû attendre au moins 2 ou 3 jours sur Point Noir, on a eu à dormir à l'aéroport même, je me rappelle. Parce qu'il ne fallait pas rester à la maison pour éviter d'emporter avec soi les esprits mauvais et tout. On a dû quitter déjà d'abord la maison des jours à l'avance pour aller dormir dans les sites, à l'église, pour prier, pour préparer le voyage, pour ne pas que les esprits mauvais aillent avec nous durant ce voyage. Donc, au final, nous avons réussi à embarquer dans un avion. 2 ou 3 jours après être parti de la maison, nous sommes arrivés à Brazzaville en fin de journée, dans la nuit. Et après, le lendemain, bah, dans cette nuit-là, on a passé la nuit dans un site où on a été hébergé. Et ma soeur Hélène, elle était déjà à Brazzaville à l'époque, elle était repartie pour les études à Serre. Elle est venue nous rendre visite dans le site où on était, puisqu'elle aussi elle priait avec nous dans la même église, mais elle était moins religieuse, plus croyante, donc elle n'était pas trop victime de ces choses-là, des choix de maman et autres et tout. Et le lendemain, bah, on s'est retrouvés au beach, il fallait traverser, c'était la première fois que je débarquais au beach, on était dans des pays post-conflit, on venait de sortir de guerre et tout ça là, Kinshasa est venu de sortir de la guerre avec les Rwandais et tout, donc les niveaux de sécurité étaient hyper élevés, il y avait plein de contraintes, c'était la première fois que je voyais ce genre de choses. On embarquait à l'époque, on appelait ça les grands bacs. On a embarqué dedans, on a fini par embarquer. On est arrivé après près de 30 minutes, 40 minutes de traversée. On est arrivé finalement à Kinshasa. On est arrivé au beach de Brazzaville le matin à 10h. Et on est arrivé à Kinshasa à 16h. Dire qu'on a passé des heures au beach de Brazzaville à attendre, à pouvoir embarquer, puisqu'il y avait plusieurs vagues. Il y avait des gens qui sont partis. Le bateau a fait plusieurs tours. Nous, on est arrivé à Kinshasa à 16h. Enfin, quoi ? Donc, 15h. Et on est arrivé au site où on devait être hébergé, à Lupen, dans une très 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 grande villa qui appartenait à un général de l'époque du Zaïre, de l'époque de Mobutu, un général de Mobutu. De toute ma vie, j'avais jamais vu une maison aussi luxueuse, aussi belle. C'était un très grand domaine, c'était magnifique, c'était waouh, c'était vraiment waouh. Il y avait des blocs de marbre partout et autres et tout. Et c'était là le site, là où la délégation de Pointe-Noire devait séjourner durant le symposium. Donc ce jour-là, on s'est arrivé, on s'est installé et tout. Paf, déjà première baffe. Il fallait dormir au sol et tout. On avait voyagé avec des matelas et tout ça là, des petites nattes et tout pour pouvoir dormir. Donc quand on arrive, il fallait acheter des matelas le lendemain là et tout, des petits matelas, une place et tout, pour pouvoir dormir. Donc moi j'étais avec maman et ma soeur, mon frère, bah lui il était avec les autres frères, les autres grands de la jeunesse et tout ça. Ils étaient dans leur coin et tout. Donc le lendemain, il y avait des bus qui nous emmenaient au lieu où se tenait le symposium. C'était au stade, à l'époque ça s'appelait le stade Kamanyola, qui est aujourd'hui le stade des martyrs, le grand stade de Kinshasa. Se tenait le symposium là-bas, c'était la première fois que je rentrais dans un stade. C'était immense quoi, tout pour moi Kinshasa était trop immense, tout était énorme, tout. Mais le truc qui m'avait le plus choqué, c'était les transports en commun. C'est pas comme aujourd'hui où les transports se sont quand même pas mal améliorés, hein. À l'époque on avait des sites de transport, mais vous n'avez pas idée. Donc on se pointait au stade des martyrs pendant 2 semaines. C'était des prédicateurs de tout niveau. Moi là-bas, je comprenais absolument rien. Moi, j'y allais, c'était pour moi l'amusement. J'étais petit, je devais avoir quoi, j'avais 11 ans, donc pour moi c'était l'amusement. C'était, je courais dans tous les sens et tout ça là, sans savoir ce qui m'attendait dans le fond en fait. Donc moi je me disais, j'ai retrouvé, il y avait pas mal d'autres enfants hein, de Pointe-Noire qui étaient là aussi, de la jeunesse, de l'école du dimanche et tout ça là. On nous appelait les petits David qui étaient là. On y allait, on s'y retrouvait, on jouait et tout ça. Et au bout de 2 semaines, le symposium est fini au stade des martyrs. On a dû libérer le stade des martyrs. Et la suite s'est poursuivie au niveau de l'église centrale qui se trouvait à Limété. C'est un très grand site. Aujourd'hui, il est encore plus grand qu'à l'époque. Et les délégations commençaient à rentrer. Le site où on se trouvait, il fallait qu'on parte de là et qu'on rejoigne une autre villa un peu plus haut, toujours dans le même quartier de Lupen, qui était une maison de retraite, là où les gens allaient se réfugier pour pouvoir prier, comme on trouve dans la région, dans le catholicisme, les monastères et autres et tout. Et là, c'était, on va dire, une maison mise à disposition par l'église pour les gens qui avaient besoin de se retirer, de trouver des solutions dans la foi, les délivrances et autres et tout. Donc, c'est là-bas qu'on emménage. On appelait ça cité Bethsaïda. Donc, comme dans la Bible, tu sais, pour ceux qui connaissaient un peu l'histoire de la Bible, la fontaine de Bethsaïda, là où Jésus avait guéri cet homme qui est resté une trentaine d'années avec sa natte, qui ne pouvait pas plonger dans la piscine. Et il y avait une super grande piscine là-bas aussi, dans cette ville-là. Elle appartenait aussi, apparemment, selon l'histoire, à un général de l'époque de Mobutu, parce qu'il faut dire que quand même dans cette église il y avait pas mal d'anciens hauts dignitaires de l'époque du Zaïre qui s'étaient convertis, qui avaient mis à disposition de l'église leurs biens et tout. Donc nous sommes arrivés là. On était logés là, on nous a donné de la place, on s'est installé là et tout. À chaque fois, je demandais, mais maman, on va repartir quand? Et tout ça, tout le monde est déjà reparti, tous mes amis sont déjà repartis et tout. Qu'est-ce qu'on fait encore ici, là et tout? Bah, c'est là que ma mère me dit que bah, non, on va devoir rester là parce qu'il faudrait qu'on soit en prière et tout. Pour trouver la solution en face de Dieu, pour que Dieu puisse guérir ta grande sœur par rapport à sa maladie. Et mon frère aîné qui avait tout qui partait de travers dans sa vie, il fallait qu'il trouve aussi des solutions pour sa vie. Et tout ça là, qu'il fallait que, voilà, que le Seigneur agisse dans sa vie et tout. J'ai dit ok, bah dès la première semaine, dès le premier jour on arrive, hein, 2 jours, je sais pas moi, peut-être, on a eu à peine eu peut-être 3 jours comme ça de repos, paf, c'était la consultation. Il fallait rencontrer les serviteurs de Dieu qui géraient ce site et tout ça là, les cureurs, les passer des cures d'âme et tout ça là. Donc on se retrouve avec un serviteur de Dieu, un pasteur ou un missionnaire, on les appelait à l'époque, qui nous interroge, qui pose tout plein de questions d'abord par maman, qui commence à lui raconter l'histoire de sa vie, l'histoire de sa famille, l'histoire de la famille de mon père, les combats qu'elle a eu à connaître, les difficultés et tout ça là, les comportements de mon père et tout. Et depuis quand ma soeur souffrait de la maladie, et elle commence à dire que voilà, même le petit, lui aussi, il est trop possédé, il est trop turbulent, il a la tête dans l'air, il est comme ci, comme ça, et tout ça là, genre vraiment une consultation comme chez un médecin. Et il y a mon frère aîné, lui aussi commence à... Bon, mon frère aîné, lui, il était un peu plus indépendant, donc il avait passé sa cure d'âme dans son coin, il avait son encadreur à lui qui le suivait, donc je sais pas ce qu'il avait bien raconté là-bas. Bah moi, maman, elle est allée les dossiers, et voilà, on a été victime de la guerre, patati, patata, elle a un peu raconté. Et là, bah, le serviteur de Dieu, le missionnaire, l'encadreur, il prescrit le programme de prière qu'on allait subir. Paf, ça tombe direct. Moi, j'ai droit à 3 jours de jeûne à sec, sans boire ni manger. Ma mère, une semaine de jeûne à sec avec ma sœur aînée, tellement que eux, ils étaient trop possédés, ils avaient des démons intenses. 3 jours de jeûne à sec pour eux. Et une semaine de jeûne à sec pour eux, pardon. 3 jours de jeûne à sec pour moi. Je dis, bon, ok. Bon, sûrement, c'est comme on est encore en prière ici, comme on va tout le temps alimenté et tout ça. Donc, c'est sûrement pour ça. Donc, dès le soir là même, on mangeait notre dernier repas. Le lendemain, les 3 jours de jeûne avaient commencé. C'était pas la première fois que je faisais un jeûne, mais ça faisait longtemps, très longtemps que je n'avais pas fait. Parce que le premier jeûne que j'ai fait, quand ma mère s'est convertie dans cette église, c'était en 95, 96, que j'ai fait un jeûne de 3 jours à sec. J'avais quoi? J'avais à peine... j'avais 6 ans à l'époque. Donc là, je me faisais la première fois figer un jeûne 3 jours à sec. Et c'était compliqué. C'était compliqué. Je ne voyais pas les choses comme ça. Je n'imaginais pas les choses comme ça. On était dans une villa où on était enfermé. On ne pouvait pas sortir. Le portail était cadenassé et tout. On ne pouvait pas sortir. On ne connaissait personne et tout ça là. Il y avait plusieurs familles. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Donc, je me retrouvais à faire la première semaine, les 3 premiers jeûnes à sec. Donc, je ne sais pas, vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas une partie de plaisir. Après ça, les 3 jours se terminent. On part à la délivrance. Et là, on prie pour nous et tout ça là. Après avoir la délivrance, on passe à la cure d'âme. Et là, à la cure d'âme, il faut raconter tout ce que le Seigneur a pu faire pendant les 3 jours, les révélations qu'on a pu avoir, les rêves qu'on a pu avoir. Et si tu n'as pas rêvé, si tu n'as pas eu de révélation, ben le jeûne, il continue. Tu ne sors pas du jeûne. Donc le premier jour, les 3 premiers jours là et tout, je raconte, non, j'ai rêvé que je pilotais un avion la nuit et tout. Et là, on me taxe de sorcier, dit, ah donc t'es pilote de nuit, t'es un pilote tu pilotes les sorciers la nuit, c'est toi qui conduis l'avion des sorciers, des trucs comme ça et tout. On me fait la délivrance, on sort du jeûne, on mange, maman cuisine, on mange. On finit la semaine, une semaine après et tout, encore un jeûne. Donc, on enchaînait les jeûnes comme de l'eau. On avait une semaine sur deux, on était en jeûne. Une semaine sur deux, on était en jeûne. Un week-end sur... 3 week-ends sur 4, on était en jeûne. Et c'était ça vraiment le quotidien, quoi. Donc, la deuxième fois, on me fait rentrer le jeûne. Encore de 3 jours, à sec. Au bout d'une semaine, là, je comprenais plus rien. Je dis, mais normalement, un seul jeûne, ça suffit. La dernière fois, ça fait remonter à 46, j'ai fait un seul jeûne, j'étais délivré et tout, donc ça c'est suffisé. Mais bon, j'étais en position de faiblesse, je pouvais rien faire, j'étais là condamné, quoi, j'avais pas le choix, quoi. C'est là que j'ai commencé à réaliser mon cauchemar, en fait, à réaliser dans quoi on s'était embarqué, je m'étais retrouvé embarqué. Toutes les délégations, toutes les personnes qui étaient là pour repartir, elles sont reparties. Toutes celles qui étaient restées, il y avait à l'époque, j'avais un grand frère, il y a Fred, qui lui aussi faisait tellement des dégâts. C'était un bon viveur et tout ça là. C'était un gars qui était vraiment... il était vraiment dans le Vangbi. Il était vraiment à fond dans le Vangbi, mais c'était... Lui aussi, pour retrouver les bonnes grâces de ses parents, qui étaient des personnalités assez respectées dans l'église, il était obligé d'accepter de se retrouver dans cette situation de jeune. Donc on était là avec le grand Fred et tout. Mais quand je suis à vivre sa petite vie, les nanas, les meufs et tout ça là, moi je continuais à être victime des croyances de ma mère et tout ça là, des esprits. Ma mère n'avait plus aucun mot à dire sur ma vie, c'était d'autres personnes qui décidaient, c'est les fameux encadreurs et autres et tout ça là. Mon frère, il vivait sa vie dans son coin avec d'autres frères de la jeunesse aussi qui étaient là, qui étaient restés pour passer des moments en prière et tout ça là. Et encore à dire que tous les Congolais de Brazzaville qui étaient là étaient devenus un peu comme une petite famille, quoi, et tout. Donc après, je m'étais fait quelques amis avec d'autres enfants qui étaient là, et même ça a été un problème. À un moment, je m'étais rapproché d'autres enfants et tout, et il fallait pas. Un soir, il y a un enfant qui avec qui on jouait là et tout, qui est allé dire à sa mère que je sais pas ce qu'il avait raconté, que moi je racontais des histoires bizarres le soir. À l'époque, avant qu'on ne parte à Kinshasa, moi et mon père, on écoutait souvent les histoires de Patrick Ngemandong sur RF, sur Africa numéro 1. Donc il avait raconté une histoire effrayante et tout aux autres enfants. Ce garçon est allé raconter à sa mère. Sa mère est allée venue trouver la mienne et tout. Que voilà, ton enfant est un sorcier, regarde le genre d'histoire qu'il raconte et tout. Il est allé raconter ça au responsable du site et tout. Et voilà que je me retrouvais encore taxé de sorcier, d'esprit mauvais et tout. Il fallait encore que je jeûne. Donc on me plongeait encore dans un jeûne de 3 jours et cette fois-là, on m'enfermait dans une chambre. Je devais y être tout seul, enfermé pendant 3 jours, endormi sur une natte, avec une petite mousse qui faisait même pas 5 cm d'épaisseur. Et ça a duré pendant près de 3 mois, je sais pas, jusqu'à... Ça a duré jusqu'en décembre 2000. Donc on est allé à Kinshasa au mois de juillet. Je suis resté quasiment 6 mois. À Kinshasa, à subir ses sévices. Et au bout d'un moment, ça finit par me rébeller, en fait. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Et si ça ne dépendait que de ma mère, je serais resté plus longtemps, voire peut-être même autant de temps que ma soeur y est restée, parce que ma soeur, elle est restée là-bas pendant 2 ans, à Kinshasa. Elle est restée dans cette vie pendant 2 ans, et elle est rentrée, rien n'avait changé, en fait. Rien n'avait changé après 2 ans. Et si ça ne dépendait que ma mère, je serais resté. Ma mère et ma soeur, ma mère est restée là-bas avec ma soeur pendant près d'un an et demi. Elle est rentrée au Congo en décembre 2001 qu'elle est rentrée au pays. Parce que mon père l'a menacée de divorcer et tout, qu'elle avait déserté. Qu'elle avait déserté son foyer, qu'elle avait abandonné ses responsabilités conjugales et autres et tout. Et même si j'ai pu rentrer à Brazzaville en janvier 2001, c'est parce que mon père menaçait ma mère. Il a dit, tu me renvoies mon enfant ici, sinon tu vas avoir affaire à moi, sinon toi et moi et tout ça là. Et c'est parce qu'il fallait que je reparte aussi à l'école. J'avais commencé à faire là-bas à Kinshasa, parce que l'église dans laquelle on était, ils avaient une école chrétienne qui s'appelait Béret, qui existe encore, je crois peut-être aujourd'hui. Et je me suis retrouvé là-bas en fait. Au début, si ça ne dépendait que de ma mère, si mon père n'avait pas menacé et autre et tout, et que ma soeur n'avait pas intervenu, si elle n'avait pas intervenu, et mon frère un peu aussi, parce qu'il a remarqué que voilà, que ça commençait un peu à... Je sais pas, que je perdais, que j'allais peut-être me perdre là-bas et tout ça là, quoi. Et je suis rentré à Brazzaville pour vivre avec ma soeur. Juste pour dire que la religion, c'est bien. Prier, la foi, croire en Dieu, c'est une bonne chose. Mais les églises de réveil, aujourd'hui, avec un peu de recul, ont fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts dans beaucoup de familles. Ont divisé des familles, ont détruit des familles. Beaucoup d'enfants se sont retrouvés à la rue à cause des églises de réveil parce que leurs parents ne voulaient plus d'eux. Leurs parents voyaient en eux des sorciers. J'aurais pu me retrouver dans une telle situation si mes deux parents étaient dans l'église. Parce que mon père, quelques années après, il s'est converti, mais c'était moins virulent. Ça, c'est une autre étape, c'est une autre histoire que je vous raconterai. Mais les églises de réveil ont fait beaucoup de dégâts. Et pour moi particulièrement, parce que après ça, après ce qui s'est passé, j'en voulais énormément à ma mère. J'avais vraiment une haine féroce envers ma mère par rapport à ce qu'elle m'avait fait subir. Ces jeûnes intempestifs et tout, parce que après, je me suis retrouvé à souffrir de colopathie à cause des jeûnes incessants et entre tout, j'ai pris des... Mais ça a fait beaucoup plus de dégâts. Il y a eu plus de dégâts que de bien, en fait. Le résultat qu'elle attendait, qu'elle espérait, c'est pas ce qu'elle a eu. Parce que cela n'a fait qu'entraîner plus de problèmes, plus de destruction de ma vie. Parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, j'ai jeûné toutes ces années, on m'a fait boire des jeûnes, on m'a mis en prière pour des choses que je ne savais pas, en fait. Mes rêves d'enfant ont été transformés en sorcellerie. Après ça, en fait, on va dire qu'après ces jours, je n'aimais plus rêver, en fait. Parce qu'à chaque fois que je rêvais, et je ne pouvais même pas parler de mes rêves à ma mère. Parce qu'à chaque fois que je rêvais quelque chose, si je suivais, surtout si c'est après avoir suivi un film, après avoir suivi la télé, ça se terminait en jeûne et prière pour être délivré de cet esprit-là. Si je rêvais que je suis en train de construire une maison, je suis en train de construire un hôtel. Ça veut dire que je suis en train de construire un hôtel diabolique. Si je rêvais que je suis en train de voyager, c'est-à-dire que j'ai fait un voyage astral. On pouvait imaginer un peu l'ampleur que cette religiosité a eu, les dégâts que ça a eu à causer. Mais grâce à Dieu, beaucoup des années se sont écoulées. Dieu m'a fait grâce, hein. J'ai fini moi-même personnellement par rencontrer Dieu, à faire mon cheminement avec Dieu, à comprendre qui était Dieu, à faire ma voie avec Jésus par rapport à... pas celle que ma mère a voulu montrer. Je lui serai toujours reconnaissante à ma mère de nous avoir montré la voie de la foi, mais pas celle qu'elle a voulu en fait, parce que les dégâts ont été énormes en fait. Donc Kinshasa, pour moi, la première fois que j'y suis allé, ça m'a laissé un goût extrêmement désagréable. Et j'avais juré de toute ma vie que je n'y retournerais pas. Mais 7 ans plus tard, j'y suis retourné pour y faire mes études secondaires. Ça, c'est une autre histoire. Je vous la raconterai au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté et portez-vous bien. À la prochaine.